Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, l'ouvreuse Louis-Marie Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
Comment allez-vous Laurent ?
Froidement. Quoique.
Le temps quand même.
Voilà, pour le mois de décembre c'est un peu inquiétant, mais bon.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Il fait un peu chaud quand même pour le mois de décembre.
C'est clair.
Ce qui est bien, c'est que le cinéma, lui, est toujours à la température qui convient, quelle que soit la saison.
C'est vrai.
Et à la maison aussi, on est bien quand on est dans son canapé et qu'on regarde la télé, surtout avec vos conseils, Laurent.
Oui,
combien y aura-t-il de films à voir ?
Il fait nuit tôt et des fois, on n'a pas trop envie de sortir.
Ah oui, c'est vrai qu'il fait nuit tôt. Oui.
Donc on peut rester à la maison et à ce moment-là, je me permets de vous conseiller 5 films pour le cinéma à la télévision cette semaine. De quoi passer une bonne soirée chez soi et... Les bons plans de Lolo arrivent puisque oui. Noël approche, donc on va essayer de vous donner des bons plans, cadeaux, pas très chers et qui feront plaisir. Il y aura 2 conseils de lecture et le panier est tellement lourd pour les conseils de lecture que peut-être Guillaume m'aidera.
Ah oui,
suspense.
Ah, il y a tellement de choses à lire. Il y aura beaucoup de moments où on pourra éteindre la télé alors.
Bien sûr, il faut lire, c'est important.
Oui, lire, c'est important. Il lit aussi, il regarde des films également et surtout et... En particulier pour nous parler de toute cette mécanique qui fait ce charme du cinéma, c'est Guillaume Sidom avec son retour de Manivelle. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir Laurent, bonsoir à tous et à toutes. En effet, j'aurai en conseil de lecture 3 revues, une fois n'est pas coutume, à vous conseiller en lien avec le film de ce soir.
Ah oui, c'est pour ça que Laurent disait que le panier des Alors, cadeaux et de lecture serait lourd.
Les revues en général sont plus légères, quoique.
Ouais. Et 3, ça fait un bon livre, ça, quand même.
Ça fait un bon livre.
Il sera là aussi. Alors, pardon. Vous parlez. Vous parlez d'abord de revue.
Vous m'avez perturbé.
Complètement. De quoi allez-vous nous parler ? Faites-nous rêver.
Ah, ce soir, une grande fresque animée et petit indice en bas de votre transistor avec ce titre de film. Ken Loach a obtenu la Palme d'Or en 2006.
Nous sommes sur la voie.
Ouais. L'homonymie dans le titre de film.
Et ça sera retrouvé sur France 4 samedi soir.
Deux films qui ne racontent pas du tout la même histoire.
Ah, ça c'est sûr.
Alors, je le disais un peu en avance, avant que vous nous livriez ce fameux teaser pour votre chronique, Guillaume Sidom, Grégory Com nous a fait son petit billet qu'il nous a posté, que nous allons écouter avec la plus grande attention. Et pour Grégory Com, notre homme de loi des séries, c'est déjà Noël. Eh oui, et lui aussi... vous conseille des choses à regarder à la télé et en particulier ces séries qui fêtent Noël. Et ce qu'il aime et ce dont il a choisi de vous parler, c'est Quad Quantum. Oh, c'est une série qu'il aime beaucoup, qu'il a beaucoup gardé devant la télévision. C'est
une série des années 80,
90, ouais. Ouais, entre à cheval
sur
M6, sur les 2 décennies. Et donc, il va vous et nous parler de cet épisode spécial Noël. Alors, où peut-on voir maintenant Code Quantum ? Eh bien, c'est compliqué, oui, mais...
Il faut être abonné, là.
Il faut être abonné et on peut le voir sur Sci-Fi. Sci-Fi.
Ah, ouais,
univers...
Et pas 7.
oui. Ah, ne vous y mettez pas non plus. Ou aussi, je ne sais pas comment il faut le dire, à faire vos petits jeux de mots. Donc, Universal Plus, c'est avec Universal Plus qu'on peut découvrir Sci-Fi et c'est à peu près sur toutes les box qui proposent la télé en streaming. Voilà. Universal Plus Sci-Fi pour Code Quantum, l'épisode spécial Noël. C'est ce que vous propose ce soir notre homme de loi des séries dans son tribunal. Qu'y a-t-il d'autre dans le panier de l'ouvreuse ? Eh bien, il y aura l'affiche de la semaine. Encore une fois, l'ouvreuse va la scruter attentivement. Heureusement que vous lui prêtez main forte, Laurent Martin, parce qu'une nouvelle fois, il y a beaucoup de films à découvrir cette semaine. Et puis, il y aura les reprises sur le grand écran avant celle du petit, dont Laurent Martin vous a parlé. Et puis, en fin d'émission, il y a toujours des coups de cœur, parce qu'on a toujours des films des manifestations qu'on a envie que vous alliez voir de notre part. Allez, on est ensemble jusqu'à 20h. J'ai oublié, encore une fois, là, ce soir, je me précipite de vous dire que nous aurons une invitée au téléphone en la personne de Joe Loubet qui nous parlera de La Condition, le film de Jérôme Bonnel. Pourquoi ce film en particulier? Eh bien, parce que en novembre dernier, il était programmé au Festival international du film de Muret. Ils aiment bien faire ça quand les films sortent en salle, puisque il était proposé donc en avant-première nécessairement. Et bien quand ils sortent en salle, ils font une soirée festival décalée. C'est pour vendredi 12 décembre à 20h30 que vous aurez l'occasion de voir le film. La Condition, et en même temps, on parlera du prix du jeune écrivain. Voilà, maintenant vous savez tout sur le contenu du panier de l'ouvreuse. On est ensemble jusqu'à 20h. Bon début de soirée. Avec nous, bien sûr. Allez, installez-vous confortablement, la projection commence.
Ce vent est tellement agréable.
Mademoiselle, votre chapeau va s'envoler.
Ne vous inquiétez pas.
Faites attention. Tout va bien?
Oui, merci.
Vous êtes habile. Merci.
Le vent se lève.
Il faut tenter de vivre.
Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Expliquez-nous tout, Guillaume Sidom.
Eh bien, je vais tout vous dire pour Le vent se lève. Donc, du coup, d'Hayao Miyazaki, film de 2013, musique signée Joe Hisaishi, que vous entendrez à la fin de ma chronique. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Vous venez de l'entendre, ce vers tiré du Cimetière marin de Paul Valéry ouvre ce 11e film du plus grand réalisateur de films d'animation de l'histoire, sans doute. Hayao Miyazaki. Miyazaki, vous savez, c'est le papa de Mon voisin Totoro, ou encore Le voyage de Chihiro, mais aussi Ponyo, Porco Rosso, ou encore Princesse Mononoke. Et plus récemment, en 2023, du magnifique Le garçon, les hérons, pour Le vent se lève, Miyazaki vous propose un film tout aussi poétique, mais au risque de dérouter son jeune public, nettement moins onirique, puisqu'il s'inspire très largement de la biographie de Jiro Horikoshi, un enfant passionné d'aviation, concepteur de l'avion des kamikazes. Vous savez, le fameux chasseur Zéro, l'appareil utilisé dans l'attaque japonaise de Pearl Harbor en 1941, mais aussi dans des opérations suicides de kamikazes. Voilà, en tout cas, à qui s'adresse ce film Le vent se lève.
Alors, destiné à un public plutôt adolescent, Le vent se lève s'inspire donc de la vraie vie de Jiro Horikoshi.
Et un ingénieur aéronautique qui a modernisé les bombardiers japonais. Le film fait aussi la chronique du passage à l'âge adulte d'un jeune homme pris dans l'histoire entre la crise de 1929 et la Seconde Guerre mondiale, et qui va découvrir aussi l'amour inspiré par le fameux concepteur d'avions Giovanni Caproni. Eh bien, il rêve de voler et de dessiner de magnifiques avions, mais sa mauvaise vue, un peu comme Laurent, l'empêche de devenir pilote, et il se fait engager dans le département aéronautique d'une importante entreprise d'ingénierie en 1929, et son génie l'impose rapidement comme l'un des plus grands ingénieurs du monde. Le vent se lève nous raconte donc une grande partie de sa vie et dépeint les événements historiques clés qui ont profondément influencé le cours de son existence, dont le séisme de Kanto en 1923, la Grande Dépression, l'épidémie de tuberculose et l'entrée en guerre du Japon. Inventeur extraordinaire, il fait entrer l'aviation dans une ère nouvelle, et chez Miyazaki, à la différence de chez Disney, tout ne se résout pas d'un coup de baguette magique. Notre génial héros idéaliste et rêveur se heurte donc à l'âpreté de l'avant-guerre et la montée de l'impérialisme nippon. Les avions, passion de Miyazaki, omniprésent dans son œuvre et auquel son studio doit son nom, Ghibli, hein, comme les avions éclaireurs italiens. Et si pour une fois, biopic oblige, il ne peut avoir une femme pour héroïne principale, eh bien il va créer le personnage de Naoko, promise tuberculeuse de Jiro, et développe une histoire d'amour d'une extrême sensibilité dans un Japon des années 20 et 30 méticuleusement reconstitué. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Le vent se lève est le seul film d'animation à avoir eu les honneurs de la couverture des Cahiers du cinéma. C'est un film qui m'a pris au dépourvu et littéralement emporté. C'est le seul de ces films peut-être à renoncer au fantastique sur le plan narratif au profit d'un ancrage historique extrêmement marqué. Ici, il se lance dans l'épopée historique. C'est un film qui ne se refuse rien. Et vous avez donc le droit à la grande histoire d'amour romantique, des catastrophes dans tous les sens avec des crashs notamment, des scènes de tests d'avion qui se passent plus ou moins bien. C'est un souffle qui vous emporte et va créer chez vous un sentiment d'inconfort.
À 62 ans, c'est-à-dire au moment...
72 ans.
Au moment où sort le film, Miyazaki envoie un message clair.
Ouais, il faut profiter de ces 10 années d'inspiration et vous pouvez réaliser votre rêve si vous le voulez vraiment. Et dans le film, l'ingénieur Caproni, mentor du jeune Giraud, lui dit « Le pic de créativité ne dure jamais plus de 10 ans pour les ingénieurs comme pour les artistes. Vivez pleinement ce dernier. » Miyazaki vous rappelle surtout la nécessité de vivre malgré les horreurs du monde. Même si ceux que vous aimez ne sont plus là, même si ceux qui sont encore là, bien vous ne pouvez plus les voir. Mélancolique, intimiste, Le Vent se lève est un concentré d'émotions à retrouver ce samedi 13 décembre 21h05 sur France 4 dans le cadre, vous savez, de la case dédiée à l'animation, l'excellente case par la chaîne publique. Et à tout moment sur France.tv à la suite de sa diffusion et en Blu-ray et DVD chez Ghibli. Et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon, et surtout, allez au cinéma.
Comme vous le disait Guillaume Sidom dans sa chronique, c'est Joe Hisaishi qui signe la partition du film d'Hayao Miyazaki, Le Vent se lève. C'est d'ailleurs lui qui signe toutes les partitions de tous les films de Miyazaki. Le ciel et ce paysage, cette horizon où le vent se lève, les oiseaux et les avions surtout partent. Et on se retrouve et on a de la chance en compagnie de Jo Loubet qui va nous parler du festival décalé qui se passe au VO de Muret. Bonsoir Jo.
Bonsoir.
Comment allez-vous ?
Eh ben, je vais bien, je vais très bien, oui. Je suis très contente de vous parler un petit peu de ce film que j'aime beaucoup de Jérôme Bonnel qui s'appelle La Condition.
Alors, ce que j'expliquais en début d'émission, c'est que vous avez coutume de faire quand une séance spéciale, quand un film que vous avez programmé au cours du Festival du film international de Muret sort en salle, et c'est le cas de La Condition, qui était dans la sélection du festival, et qui fera l'objet donc d'une soirée, je le disais, Festival décalé, vendredi prochain, 12 décembre à 20h30. Alors le film est déjà en salle, mais ce sera une soirée particulière. Expliquez-nous pourquoi.
Alors une soirée particulière parce qu'on va faire appel à nos différents jurys, et nos différents jurys qui vont venir présenter le film, vous dire ce qu'ils ont, envie d'en dire. Et par rapport à nos spectateurs du festival qui n'ont pas vu le film et qui ont envie de le voir, c'est l'occasion de mettre un petit focus dessus, de l'éclairer, d'échanger, de discuter un petit peu autour du film en ayant un peu de temps.
Alors La Condition, c'est le nouveau film de Jérôme Bonnel, dans lequel on parle d'une famille bourgeoise, hein, on est en 1908, au tout début du XXe siècle. Il y a Céleste, la bonne, qui travaille chez un couple de bourgeois à la campagne. Et dans cette maison, il y a André, qui est le notable, qui veut être respecté, qui se veut respectable, bien sûr, et il y a un jeu de pouvoir dont les femmes font les frais, et Victoire, la femme d'André, la bourgeoise, va être amenée à se rapprocher de Céleste par un biais inattendu. Voilà, il ne faut pas trop en dire, parce qu'il y a des surprises à découvrir quand même dans le film, et ça serait dommage de les dévoiler.
Oui, alors moi ce qui m'a frappé au début du film, c'est que Victoire, donc qui est l'épouse modèle, qui s'ennuie peut-être dans son mariage, même sans doute, elle demande à sa petite bonne de mettre son corset et lui dit « Serrez-moi fort, j'ai besoin d'être maintenue ». Et je pense que tout le film tourne autour de ce corset. Finalement, on est dans un milieu très corseté, avec ce mari qui travaille beaucoup, qui n'est pas épanoui dans sa vie de couple, mais qui va rendre visite à la petite bonne qui subit ses assauts sexuels parce que elle n'a pas le choix, hein, c'est le patron. Et en fait, notre souci, c'est de dire, est-ce que cette petite bonne va trouver un échappatoire? On ne sait pas. Est-ce que Victoire, elle va desserrer le corset?
Eh oui, Victoire, donc vous le disiez, c'est la femme, c'est la bourgeoise. Et il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire qu'elle va, eh bien, on va comprendre la condition du titre, en fait.
Oui, ça peut avoir plusieurs sens, la condition.
Oui, effectivement.
Ça peut être la condition sociale, c'est le cas du film, hein. On est enfermé dans un rôle social et on ne peut pas en sortir. Ça peut être aussi la condition entre deux personnes. Je vais imposer une condition.
Et
ça peut être... Voilà.
Jérôme Bonnel joue sur les différents sens de conditions. Oui. Alors, le film met en scène un trio de personnages qui est enfermé dans des rôles imposés.
Il y a
le chef de la maison, il n'y a pas de discours moralisateur, hein. C'est voilà. Par la force des situations et des dialogues qu'on perçoit ça dans le film.
Tout à fait. Et je pense que Jérôme Bonnel, de son côté, il avait aussi des problèmes de corset. C'est-à-dire qu'il a adapté un roman de Léonore de Recondo, et qui s'appelle Amour, qui est un très beau roman, et il s'est demandé pendant longtemps comment il allait adapter. Comment, dans quelle mesure il peut le revisiter, prendre des libertés avec, peut-être le visiter au prisme des questions d'aujourd'hui. Tout cela, finalement, c'était un peu un corset pour lui et dont il est arrivé à sortir.
Alors justement, le corset, c'est aussi cette maison, parce qu'on est un peu dans un huis clos.
Oui.
Et il va falloir respirer là aussi, pouvoir sortir.
Oui, et ce que l'autre problème qu'avait, à mon avis, Jérôme Bonnel dans ce film, c'est que un film en costume, un huis clos qui est plutôt assez toxique, un enfermement assez étouffant, surtout il ne faut pas que la caméra soit fixe, très académique, etc. Donc il a une caméra extrêmement mobile qui va capter les regards, les déplacements, les vibrations, peut-être les vibrations des personnages. Si jamais ils sont sur un chemin de changement, d'émancipation, de desserrer ce corset finalement. Et je crois que c'est un petit peu toute la question du film. Est-ce que dans ce patriarcat installé, on va pouvoir respirer? Est-ce que ces femmes vont pouvoir avoir une respiration?
Alors ça, on le découvre petit à petit, et effectivement, la respiration va pouvoir arriver, en tout cas. Le film est porté par une formidable distribution. Il y a Swann Orlow, qui est l'homme dans ce huis clos où il y a essentiellement des femmes, puisqu'il y a, il y a sa femme, incarnée par Louise Chevillotte. Il y a Céleste et Galatea Bellucci. Et puis il y a cette maman qui ne parle pas, parce qu'elle a été victime de différents problèmes cardiaques, incarnée par Emmanuel De Vos. Alors tout ça, il y a ces non-dits. Et en fait, ces personnages portent admirablement bien le film. Enfin, ces acteurs, pardon, portent admirablement bien le film.
Et on retrouve l'élégance, la subtilité, la propre identité qu'a Jérôme Bonnel dans son récit, qui pourrait être quelque chose de terne et de académique, et qui l'est pas du tout. C'est plein de vie, c'est plein de force, plein de choses qui vont éclater. Et ce corset, finalement, j'espère, les personnages vont arriver à le faire, à l'ouvrir un petit peu, à le resserrer, à ne plus dire « serrez-moi fort, j'ai besoin d'être maintenu ». Peut-être que le personnage va sortir de ce corset. C'est ce qu'on espère, du moins, au long du film.
Eh bien, on aura la solution en allant voir la condition de Jérôme Bonnel. Et en votre compagnie, ce sera vendredi prochain, 12 décembre à 20h30, au cinéma VO à Muret. Oui. Et puis, il y a aussi, je crois, un autre événement, le prix du jeune écrivain, en même temps, ce soir-là.
Oui, parce que le prix du jeune écrivain va recevoir, je crois, justement, pour un spectacle au mois de mars, Léonore de Recondo, qui va venir, je crois, lire des textes. Je crois qu'elle est musicienne aussi. Enfin, il y aura un beau spectacle qui sera proposé et qui continuera un petit peu ce que nous proposons le 12 décembre.
Eh bien, le rendez-vous est pris. En tout cas, dès vendredi prochain, nous y serons. La condition de Jérôme Bonnel avec vous, le Festival international du film de Muret, et vous, Joloubet. Merci de nous avoir parlé pendant ces quelques minutes, et pour vous accompagner, on écoute un extrait de la bande originale du film, signé David Stank. Et c'est, on le sent aussi dans la musique, ce côté un peu étouffant parfois. Merci,
oui.
Joloubet.
Merci à vous.
Au revoir. Sur cette musique signée David Stank pour La Condition de Jérôme Bonnel, c'est le thème principal du film. Eh bien, Laurent Martin et l'ouvreuse vont vous parler des films de la semaine, n'est-ce pas Laurent ?
Oui, à l'affiche cette semaine, Animal Totem de Benoît Delépine avec Samir Ghesmi, Olivier Rabourdin, Pierre Lotin et Patrick Bouchité. De l'aéroport de Beauvais à La Défense, accompagné de sa valise à roulettes, Darius traverse à pied campagnes et banlieues pour mener à bien, et sans empreinte carbone, une mystérieuse mission. Alors, un an après son complice Gustave Kervern et son magnifique « Je ne me laisserai plus faire », avec qui il a réalisé quand même 10 films déjà, voici à son tour Benoît Delépine, seul maître à bord de cet animal totem, où on a le plaisir de retrouver ce qui fait le sel et le piment de leurs œuvres en duo. Cette manière, vous savez, d'entremêler l'humour, la poésie et la politique, hein, au fil de récits sortant des sentiers battus. En l'occurrence ici, donc, un road movie, leur genre emblématique, rappelez-vous d'Altra ou même Saint-Amour. dans les pas donc, de ce personnage mystérieux qui débarque comme ça à l'aéroport de Beauvais avec une simple valise à roulettes et puis une menotte, des menottes qui le lie à cette valise, on ne sait pas trop ce qu'il en est. Et on va donc le suivre tout au long de son périple pédestre vers la Défense, où on découvrira le but de sa mission, mu par un combat écologique. On oubliera un peu sa dernière ligne droite au forceps pour retenir la folie douce, hein, qui accompagne ce périple porté par Samir Ghesmi, hein, qu'on pourrait croire échappé d'un film de Tati, et les excellents seconds rôles qui l'entourent, hein, avec un Patrick Bouchité en poète vraiment très bon et qui est si rare sur grand écran. Alors bien sûr, tout au long de sa marche, il croise une galerie de personnages aux en couleurs, une anarchiste qui détrousse les vieux riches pour financer son revenu universel, un chasseur avide, un agent de la voie publique persuadé d'être un cow-boy, un fan de MMA, trop sûr de lui. Je rappelle que le MMA, c'est ce fameux sport que vous pratiquez, Guillaume, qui est un mélange de boxe, de karaté.
Que je suis tous les soirs sur la chaîne.
Voilà, et puis avec MMA, c'est zéro blabla, zéro tracas, hein, on le sait.
Tout à fait.
Donc voilà, donc une galerie de personnages comme ça qui vont s'ajouter à l'histoire loufoque de Totor, ouais, qui est le nom de votre chat, Louis-Marie, je le sais. Mais là, c'est un pigeon voyageur de l'armée française durant la Première Guerre mondiale. Et oui, il ose tout de l'épine. Et chaque rencontre, bien sûr, va former un sketch autonome, mais contribue peu à peu à dresser un tableau grinçant de la société française contemporaine. La tonalité du film reste fidèle donc à l'ADN du réalisateur franco-grolandais. Le goût du non-sens, l'humour absurde et la critique sociale. Et comme toujours chez Delépine, un animal totem dépasse la simple farce pour se poser en fable écologique et anticapitaliste. Il y ajoute d'ailleurs une fibre un peu antispéciste, en rappelant sans cesse que l'humain n'est pas seul sur Terre. Et d'ailleurs, il y a plusieurs parenthèses qu'ils ont filmées et qui adoptent le point de vue de l'animal, hein, le regard de l'animal. Et donc ce procédé assez inattendu dans un film invite le spectateur à percevoir l'environnement et les gestes humains depuis une conscience non humaine et a finalement reconsidéré sa place dans l'écosystème. Petite revue de presse sur ce film. Benoît Delépine signe avec Animal Totem un conte lucide et sensoriel où la drôlerie et la mélancolie se partagent le territoire, selon Bande à part. France Info Culture a bien aimé, avec ses allures dégingandées à la Jacques Tati. Samir Ghesmi incarne avec sensibilité ce personnage extravagant, doux et rêveur. Le Figaro a bien aimé aussi, un conte déroutant, esthétique et imparfait autour de l'écologie. Petit bémol pour positif, un élan à la fois démagogique et bêta, selon eux. Les Inrock n'ont pas aimé. Le premier long métrage solo de Benoît Delépine oppose au monde capitaliste une déambulation champêtre inoffensive, voire franchement détestable. À l'affiche aussi cette semaine, on pourra voir Louise, le premier film de Nicolas Quetel avec Cécile de France et Diane Rouxel. C'est l'histoire de la jeune Marion qui décide de fuguer du domicile familial. Elle démarre alors une nouvelle vie sous une autre identité, Louise. Et 15 ans plus tard, Louise retrouve sa sœur et sa mère. Petit à petit, elle va réapprendre à les connaître sans leur dévoiler son identité. Alors qu'elle renoue avec son passé, un dilemme va s'imposer à elle. Est-ce qu'elle doit rester Louise ou redevenir Marion? Louis-Marie, vous avez rencontré le réalisateur Nicolas Quetel qui a décroché le prix du public au festival de Saint-Jean-de-Luz.
Il était avec moi pas plus tard que ce matin en direct sur l'antenne de Radio Présence dans Mercredi Cinéma. On reparle rapidement de Louise. Vous pouvez écouter attentivement tous ses propos dans le podcast qui est sur radioprésence.com. Mais il est bon de revenir sur ce film qui est plutôt réussi pour un premier film. Nicolas Quetel, le thème de ses courts-métrages qui ont précédé ce long-métrage sont voisins de ce qui se passe dans cette histoire, dans l'histoire de Louise. Il explore la famille brisée, les traumatismes d'enfance qui marquent inévitablement l'âge adulte. Et pour montrer ce traumatisme, pour pas s'éparpiller, il a préféré se centrer sur un des personnages de la famille, sur Louise. Et je vous propose de réécouter ce qu'il dit à ce propos.
Je voulais vraiment traiter de la famille, mais je voulais surtout faire une trajectoire de personnages et je voulais qu'on découvre un peu les événements à travers son point de vue et non pas à travers les différents points de vue. C'est-à-dire que pour qu'on puisse créer des rebondissements et pour que le spectateur soit quand même entraîné dans un récit, il fallait qu'on adopte un seul point de vue, sinon on n'aurait pas eu les éléments de surprise qu'il y a dans dans l'histoire. Donc j'ai décidé de faire vraiment toutes les scènes à travers le point de vue de ce personnage, que ce soit durant la partie enfance ou la partie adulte. Il y a vraiment, elle est vraiment dans toutes les scènes et on découvre vraiment l'histoire à travers son regard. C'est un film d'enquête sur soi, donc il fallait adopter un seul point de vue pour que l'aspect enquête justement puisse fonctionner.
Alors justement, il en parle, film enquête, mais son film, Louise, est à la croisée de tous ces genres. Il y a du mélo, il y a l'enquête, je disais, thriller psychologique, drame familial, tout y est. Et ça fonctionne plutôt bien, il a réussi à trouver l'alchimie pour que tous ces genres arrivent à coexister. Et puis surtout, il a trouvé les interprètes qu'il fallait, quoi. Diane Rouxel, qui joue le rôle de Louise, il y a Salomé Devals qui joue le rôle de sa sœur Jeanne, et puis Cécile de France, magnifique, en maman, c'est Catherine. Et toutes les trois portent littéralement le film, qui se distingue par à la fois son sens de l'introspection, sa sobriété et sa capacité à surprendre.
Il y a aussi un côté religieux, le pardon. Est-ce que la mère et la sœur vont pardonner à la jeune Marion, alias Louise, ou l'inverse, de les avoir...
En voyant le film, et il ne faut pas trop en dire, on comprend que ce n'est pas complètement de sa faute si elle est partie.
Voilà, on n'en dit pas plus.
On n'en dit pas plus. Laisser la surprise. Et oui, il vaut mieux laisser la surprise. Mais le pardon fait partie aussi du thème, de la thématique en tout cas.
Petite revue de presse sur ce film. C'est une certitude, on tient là le meilleur premier film français de 2025. Il était temps, selon Paris Match. Première a bien aimé aussi, malgré quelques longueurs, ce drame familial séduit par ses choix qualitatifs, dont celui de Diane Rouxel, une actrice fine et sobre. Tu l'as vraiment pas aimé.
C'est étonnant.
Oui, c'est leur choix. Oui, le réalisateur peine à donner cher à ce retour douloureux. Bon, c'est pas une critique très... très très négative non plus. À l'affiche aussi cette semaine, on peut voir la condition de Jérôme Bonnel. On en a parlé tout à l'heure avec Jo Loubet. Si vous ne pouvez pas aller jusqu'à Muret, vous pouvez le voir au Régent à Saint-Gaudens ou à l'Américain Cosmographe à Toulouse. Louise, dont je viens de parler, on peut le voir au Pathé Wilson, au CGR Montauban à Rodez ou au CGR au Régent, pardon, Saint-Gaudens. On peut voir aussi La Petite Cuisine de Mehdi d'Amina Gina au CGR Le Paris Montauban, au Véon Muret ou au Cosmo à Toulouse. Love Me Tender d'Anna Casanave Cambé, qu'on peut voir à l'ABC Toulouse. Lady Nazca de Damien Dorsa, on peut voir à l'ABC Toulouse, au Régent à Saint-Gaudens. À la poursuite du Père Noël de James Hutt avec Philippe Timsit.
Patrick.
Qu'est-ce que j'ai dit ? Patrick Timsit. Oui, Patrick Timsit. Philippe Timsit, c'était le chanteur des années 80 à Porte des Lilas. Exactement. Merci, Guillaume. Vous suivez. Ça fait plaisir. Patrick Timsit, donc. Chasse gardée 2 d'Antonin Fourlon, Frédéric Forestier à l'UGC Montaudan. Un film encore avec Didier Bourdon, mais il est vraiment dans tous les films.
Il est partout.
Il est partout, même à la télé, oui, sur TF1. C'est incroyable. Il doit avoir un agenda très, très fourni.
Je l'ai même vu sur deux chaînes en même temps hier soir.
Ah ben, ça se donne d'ubiquité parfois. On peut voir aussi Résurrection de Bigan. Je connaissais son frère Bigam, mais Bigan, je ne le connais pas. On peut voir l'ABC Toulouse, un film de science-fiction. L'Élu, c'est un film d'épouvante et d'horreur d'Osgun Perkins. Elle n'entend pas la moto. Un documentaire de Dominique Fischbach à l'ABC Toulouse. Pourtant, il y a une moto qu'on entend ici dans le cours de radio présence. Louis-Marie, un film pour vous. Après les Doors de la semaine dernière, ce sera les Rolling Stones cette fois-ci. Rolling Stones at the Max, un documentaire concert de Julien Temple, Roman Kreuter et David Douglas qu'on peut voir au Pathé La Beige. Et pour finir, pour les tout petits, sans doudou cette fois-ci, vous n'avez pas besoin de l'amener comme la dernière fois, ce sera Mission Père Noël, un film d'animation dès 3 ans de Ricard Cusseau. Ricard ou Richard, je ne sais pas. Ricard.
Avec modération.
Voilà, bien sûr. Ricard, sinon rien. Avec modération, bien sûr. Ricard Cusseau et Damjan Mitrevski, un film qu'on peut voir au Grand Palais à Cahors.
سر مطويا يفا أكبر بتلجار وديري وسيام وحلا نسي أكراني كولي زاد عليا الهم والحمالية كي ندير نشوف كراكي دولي يا ماما ويا ماما.
On peut entendre Acide Arabe interpréter la Afia dans le film d'Amin Adjina, La petite cuisine de Mehdi. Un film plutôt malin et réussi, l'histoire de Mehdi, cuisinier dans un bistrot lyonnais, qui a du mal à avancer dans la vie. Il est doué pour la cuisine et il va racheter le restaurant de son patron qui va prendre la retraite, mais il est écartelé entre sa famille et sa fiancée. Sa famille originaire d'Afrique du Nord, bien sûr, et sa fiancée bien française. Alors, aurait-il honte ? C'est compliqué. Elle est pas gênée du tout, sa fiancée, Léa. Et il s'empêtre dans des histoires et il va finalement pas trop mal s'en sortir. C'est une comédie, mais il y a quelque chose de profond et de troublant et sensible à la fois. À ne pas manquer, donc, la petite cuisine de Mehdi. Puis, je vous ai pas dit que dans le film, il y a Yamabas. Alors, rien que pour elle, faut aller voir la petite cuisine de Mehdi.
Andrea Di Stefano dans N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence.
Vous voulez nous dire quelque chose à propos d'Andrea Di Stefano, Guillaume Sidom?
Oh ben son film était magnifique, Il Maestro, sur cette élève qui fait face d'abord à son père qui est coach et puis au deuxième coach de tennis. Mais je vous en dis pas plus, vous verrez le film en mars, mais il y a la question de la fragilité, de l'émancipation, beaucoup de thèmes sont abordés, un film impressionnant. C'est pas évident hein, de filmer le sport, mais le jeune acteur italien est vraiment remarquable, et il s'est beaucoup entraîné, c'est ce que disait Alfredo Di Stefano. Andrea Di Stefano. Pardon, quand je l'ai rencontré, un film vraiment vraiment intéressant et on en sort avec beaucoup beaucoup d'émotions. Voilà, très très beau film. Et puis l'accent, enfin, il parle dans un français remarquable. Vous l'avez entendu dans le jingle de l'ouvreuse. Donc c'est toujours un privilège de rencontrer des réalisateurs comme vous le faites tout le temps, Louis-Marie.
Tout le temps, souvent.
Souvent, très souvent.
Vous êtes donc gentil. Vous êtes gentil avec moi. En tout cas, Andrea Di Stefano était l'invité, avec un I majuscule, de la dernière édition des Rencontres du cinéma italien. Et son film Il Maestro était en première française avant sa sortie prochaine en France en 2026, probablement.
Début mars 2026.
Et maintenant, on retrouve notre homme de loi des séries, Grégory Com, qui nous a promis de nous parler d'une série Code Quantum, mais surtout d'un épisode, l'épisode spécial Noël. Et oui, c'est la saison.
Je déclare l'audience ouverte.
Juste avant de laisser la parole à notre homme de loi des séries, un mot sur ce générique composé par Mike Post. C'est Scott Bakula qui l'interprète, autrement dit l'interprète principal de la série, et aussi le musicien qui interprète la partition de Mike Post. Il est capable de tout faire, il était capable de tout faire, Scott Bakula.
Cher Louis-Marie, alors vous le savez, l'épisode spécial de Noël, c'est une tradition dans énormément de séries télé, mais toutes ne sont pas réussies. Et je vais vous prendre ce qui est pour moi le meilleur épisode spécial Noël d'une série télé. Je vais vous parler de l'épisode 10 de la saison 3 de Code Quantum, qui est ma série préférée. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Quelle est la recette d'un bon épisode de Noël pour une série télé? En premier lieu, il faut que Noël ne soit pas qu'un prétexte, c'est pas juste un décor pour une intrigue qui aurait pu se dérouler à tout autre moment de l'année. L'intrigue, elle doit être vraiment centrée sur Noël. Ensuite, l'intrigue doit tenir dans un seul épisode et toucher les personnages et montrer ce qu'il y a de mieux en eux. Et au final, ça doit être un conte de Noël qui doit finir bien, c'est la magie de Noël. Si beaucoup de séries ont proposé des épisodes de Noël anecdotiques, encore une fois, Code Quantum sort son épingle du jeu et sort le meilleur épisode de tous les temps sur ce thème. Alors, d'abord, il nous propose dans cet épisode 10 de la saison 3 des enjeux parfaitement adaptés au conte de Noël. Alors, c'est quoi Code Quantum? Petit résumé pour ceux qui ne connaissent pas. Sam, c'est un scientifique qui voyage dans le temps en se transmutant dans des gens du quotidien pour réparer les erreurs du passé. Al, son ami, peut le suivre dans le temps sous forme d'hologramme pour l'aider dans sa mission. Hologramme que normalement, seul Sam peut voir. Dans cet épisode, Sam arrive dans la peau de Reginald Pearson, l'homme à tout faire de Monsieur Blake, un puissant homme d'affaires qui n'a que son entreprise et son cynisme pour lui tenir compagnie en cette veille de Noël. Monsieur Blake a perdu la foi en l'humanité et ne cherche qu'à étendre son empire financier, même si pour cela il doit détruire le local de l'armée du salut. On est vraiment dans un conte de Noël. Pourtant, trois points vont venir changer le destin de Monsieur Blake. Son passé qui va le rattraper, la gérante de l'antenne locale de l'armée du salut qui ne va pas le laisser indifférent, et chose très rare dans Code Quantum, Monsieur Blake va voir Al car il possède des neurones qui sont sur la fréquence proche de celle de Sam, donc il voit l'hologramme. C'est une réinvention du conte A Christmas Carol de Charles Dickens. En fait, c'est ça, la principale force de cet épisode, c'est de prendre un des plus grands contes de Noël et de le réinventer tout en le respectant. Sam va replonger Monsieur Blake dans son passé, le faire affronter son présent en le ramenant dans les quartiers de son enfance. Et c'est Al qui va utiliser ses artifices d'hologramme pour incarner le fantôme de Noël à venir et montrer à Blake son avenir sombre et sa déchéance dans la solitude. Tout ça va l'amener à comprendre qu'un simple choix peut tout changer. Et c'est là où en fait tous les codes de la série Code Quantum sont au service de Noël, que ça le soit par les reprises des chants de Noël. La série, elle a toujours eu un lien très fort avec la musique. La recherche du sens de sa mission par Sam, qui en fait, au final, c'est pas sauver qu'une vie, c'est sauver l'âme de Blake. Et l'apparition du divin à la fin, avec un échange entre Sam et Al. La dimension chrétienne dans Code Quantum est extrêmement importante. Nous sommes dans un pur épisode de Code Quantum et dans un pur épisode de Noël. Donc en conclusion, cet épisode qui donne une très grande place à notre regretté Dean Stockwell est parfait. La réalisation, les chansons, et en passant par le jeu des acteurs, et évidemment l'hommage au conte de Charles Dickens, rien n'est à jeter, et ça me tire toujours une petite larme à la fin. Mais surtout, en plus de respecter tous les codes, et c'est pour ça que c'est mon épisode préféré sur Noël, il nous délivre un message fort sur cette fête, sur son sens le plus profond, la solidarité. Sam et Al nous montrent qu'en aidant les autres, c'est au final nous-mêmes que nous aidons, et que nous sauvons. Alors vraiment, je vous conseille cet épisode et je vous souhaite à tous et à toutes un très joyeux Noël.
Très joyeux Noël en avance. Vous savez qu'il nous reste une émission à passer en votre compagnie. Celle-ci est largement entamée, puis celle de la semaine prochaine. Et après, l'ouvreuse partira pour déjà quelques temps, passer les fêtes.
Partons à la Laponie cette année.
Oui, effectivement, à la rencontre de Julupuki, autrement dit le Père Noël. Vous savez tout, Code Quantum, l'épisode spécial Noël, il est dans la saison 3, je crois qu'il l'a dit, Grégory Comme, et donc à voir sur Sci-Fi ou Sci-Fi.
Sci-Fi, je crois qu'on dit.
Ouais. Sci-Fi, ouais.
Sci-Fi avec Paramount Plus.
Universal Plus.
J'ai dit Paramount, oui, Universal Plus. Il faut pas se mélanger, hein, justement.
Avec les mains de plateforme, non, oui. Ouais.
Vous avez noté, donc, Sci-Fi, vous avez dit
Universal Plus.
Voilà. C'est bien. Les sons, cette ambiance de sud profond pour une ambiance radicalement différente. Like
让梦还更慢，永远存在留此刻的一片尘，伴倾心的这份爱。
En 1987 sortait le film de Xiu Tung Ching. Ou alors, je ne sais pas s'il faut dire Xiu Tung Ching ou Ching Xiu Tung. C'est le problème. Toujours est-il que c'est lui le réalisateur de ce film, Histoire de fantôme chinois, 1987. Et le film a eu un tellement beau succès qu'il y a eu deux suites à ces histoires de fantômes chinois. Oui, il est question d'un inspecteur des impôts un peu timide qui va dans la dans les campagnes reculées pour faire son travail et un soir il va tomber dans le temple de Lanzhou, il passe la nuit et là il va rencontrer Yen, un taoïste, et une femme mystérieuse, Xiao Tsing, mais en fait c'est un fantôme. Elle est sous l'emprise d'un méchant gros fantôme et il va falloir l'aider à sortir de là si ils veulent s'aimer, puisqu'elle est un esprit évanescent. Histoire de fantôme chinois, c'est vendredi 12 décembre, après-demain, en VO à 22h au cinéma Pâté-la-Bège. Au Pâté-la-Bège, la veille, vous aurez vu la deuxième partie du Parrain de Francis Coppola, qui a rencontré le même succès que le premier, et avec Al Pacino, mais cette fois-ci, il y a Robert De Niro. Ils ne se côtoient pas, puisque Robert De Niro incarne Vito Corleone, incarné par Marlon Brando dans le premier, pour montrer comment il était arrivé à fonder cette fameuse famille Vito Corleone. Pardon. Je l'ai dit, jeudi 11 décembre, 20h au Pâté Labège et 19h30 au Pâté Wilson, et en version originale, bien sûr. Tarantino, 2009, Inglourious Basterds. Le film n'est plus à présenter. Lundi 15 décembre en VO à 21h, toujours au Pâté la Bège. Et puis on restera un petit moment au CGR de Rodez. Agnès Varda est toujours là jusqu'à la fin de l'année, au tout début de l'année 2026, avec Santoine Nilois et Varda par Agnès, un documentaire. Santoine Nilois, c'est le fameux film de 85 avec Sandrine Bonner, Macha Merrill et Stéphane Freys. Et puis il y a aussi Le Dictateur de Chaplin et Fenêtre sur cour de Alfred Hitchcock. C'est vous dire, bon, s'il y a du lourd. Alors Hitchcock, c'est mardi à 16 à 20h15. Le Dictateur, c'est lundi 15 à 15h20. Tous les films sont en VO. Hein. Et puis Varda, trouvez-les samedi 13 à 18h10 pour Santoine Nilois et dimanche 14 à 17h50 pour Varda par Agnès. Et puis au VO de Muret, on y retourne, dimanche 14 décembre à 18h10, un très beau film signé Patrice Chéreau, Ceux qui m'aiment prendront le train.
Ah oui, avec Charles Bernier,
Pascal Grégory, ouais, Valéria Bruni, TDJ, une très belle distribution pour un film qui manque pas de saveur, à découvrir donc dimanche 14 décembre à 18h10. Et puis vous irez faire un tour à l'Utopia. C'est l'Utopia Borde Rouge pour voir Aguirre, la colère du Dieu, mardi 16 décembre à 20h. Ah oui. Le fameux film de Werner Herzog avec Klaus Kinski. Ah, c'est terrible.
Il faut le voir, ce film, si vous n'avez pas vu.
Notez que la séance sera animée par Maxime Lachaud, que vous connaissez bien. C'est le programmateur du Fifi Gros. Oui. Il est aussi essayiste, cinéaste et critique de cinéma. Et puis, un dernier petit tour par la Cinémathèque. Synchro. Hors Toulouse, puisque pour Toulouse c'est terminé, mais si vous habitez alors du côté du Grand Figeac à l'Astrolabe, vous pourrez voir Chantage, ou Charlot Festival, alors là c'est au Méliès, à Castelmauroux, ou Chantage encore, mais à Jindou, à l'Arsenic, la maison de la rue Troubria, et là c'est à Saint-Laurent-de-Nest. Alors le mieux, c'est d'aller sur le site de la Cinémathèque, lacinémathèquedetoulouse.com, tout ça en un seul mot, et vous aurez le détail de la programmation, le jour et l'heure. Voilà pour le grand écran. Il y avait beaucoup de choses à dire. Sur le petit, c'est avec vous, Laurent.
Le cinéma, la télévision en tandem. Ça commence dès ce soir sur Arte à 20h55 avec Ella de Milena Aboyan. Entre les murs d'une communauté kurde en Allemagne, où les traditions pèsent plus que les rêves, Ella, à 22 ans, s'apprête à épouser un homme qu'elle connaît à peine. un mariage arrangé, censé sceller son destin. Un film brillamment interprété par la jeune comédienne Bayla Leila, qui porte vraiment le film sur ses épaules. Et puis on continue dans la gaieté avec jeudi France 4, 21h, Les Survivants de Guillaume Renusson avec Denis Ménochet. L'histoire de Tchéré, une jeune afghane ayant fui les horreurs de son pays, qui se retrouve traquée en pleine nuit et sans papier ni protection. Elle n'a d'autre choix que de fuir vers le nord. Un sujet de société habituellement traité sous forme de drame, mais pour le transformer ici en thriller d'aventure. Vendredi, France 5, un chef-d'œuvre, Amadeus, à 21h, Miloš Forman, Tom Hulce, Murray Abraham. Nous sommes à Vienne, bien sûr, en 1823, dans l'ombre glaciale de nazi d'Antonio Salieri, autrefois compositeur attitré de la cour impériale, se livre à une confession troublante auprès du père Vogler, évoquant une rivalité qu'il a consumée pendant trois décennies. Loin de tout académisme, Miloš Forman dresse le portrait flamboyant d'un artiste de génie, Mozart. Oscar du meilleur film en 1985, vraiment un chef-d'œuvre à voir ou à revoir. Samedi, France 4, 21h, ce sera Le vent se lève d'Hayao Miyazaki. Guillaume vous en a brillamment parlé, je n'y reviens pas. Dimanche, Arte, 21h, ce sera Les Associés, un film très peu connu de Ridley Scott avec Nicolas Cage et Sam Rockwell, l'histoire de deux petits escrocs qui ont un business qui tourne comme une mécanique bien huilée, et jusqu'à ce qu'un imprévu, bien sûr, vienne tout chambouler, hein, sinon il n'y aura pas de film. Ridley Scott change de registre et livre une œuvre habilement manipulatrice. Le conseil de lecture, ce sera Le mystère Tex Avery de Robert Benayoun. Qui est le mystérieux créateur de Droopy ou Bugs Bunny? L'existence même de Tex Avery a longtemps été contestée, mais Robert Benayoun, qui l'a connu, est le premier à le sortir de l'ombre en retraçant son incroyable épopée. Alors si Walt Disney a créé les règles du genre, ben Tex Avery les a détournées. Voilà une enquête solide et enlevée. Un livre que vous retrouvez dans la collection Point pour 8€ seulement, c'est vraiment très abordable. Et puis un autre conseil de lecture, 365 anecdotes sur le cinéma. Donc chaque jour, découvrez une anecdote fascinante qui vous plonge dans les coulisses du cinéma. Un livre que vous retrouvez aux éditions MP pour 10€. Et je passe le ballon à Guillaume.
Merci Laurent. Mes conseils de lecture, ce sera trois revues en lien avec le film d'animation Le vent se lève. Je vous propose trois belles revues ce soir à retrouver dans tous les bons kiosques. Le hors-série 1XL Miyazaki et l'art de Ghibli, 40 ans d'un studio mythique pour 7,90€. Studio Ghibli, sans dessin pour la liberté de la presse en partenariat avec Reporters sans frontières. À noter que la totalité, l'intégralité des bénéfices de cet ouvrage, soit 12,50€, sont reversés à Reporters sans frontières, donc une belle revue pour une bonne cause. Et enfin, nos petits camarades de la 7e Obsession publient un hors-série sur Isao Takahata, l'autre maître du studio Ghibli, pour 8,90€. Bonne lecture à tous et à toutes.
Vous avez un truc comme un charme naturel.
Le Start Me Up qui faisait l'ouverture de ce fameux concert au Max de Los Angeles qui a été filmé, premier concert filmé en IMAX en 1990. C'est d'ailleurs en IMAX que vous pouvez le voir, c'est pour ça qu'il n'est programmé qu'au cinéma Pathé Labège, et pour cause. Et vous verrez que en 90, ça assure. Et les Stones, c'était toujours 5. Bill Wyman et Charlie Watts, la rythmique. Les deux guitaristes, Keith Richards et Ron Wood. Et évidemment, Mick Jagger au chant.
Allez, messieurs, il est temps de donner nos coups de cœur, et les vôtres en particulier. Alors, Laurent.
Animal Totem, La Condition et Aguirre ou la colère de Dieu, mardi 16 décembre à Bordeaux Rouge, à l'Utopia, à 20h.
Animal Totem, Louise, La Petite Cuisine de Mehdi, La Condition, Véo Muret, séquence court-métrage qui commence ce soir et qui continue jusqu'au 14 décembre prochain. Puis Le Vent se lève, samedi 21h05, France 4.
En ce qui me concerne, eh bien, ce sera la même chose que vous. Guillaume Sidom, à savoir Animal Totem, Louise, La Petite Cuisine de Mehdi, La Condition de Jérôme Bonnel, séquence court, la 34e du 10 au 14 décembre. Merci messieurs.
Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière de l'année.
Mercredi.
Eh oui, la dernière de l'année, effectivement. Déjà. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. À 20h, c'est Nathalie Cardon. Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine. Salut.
La prochaine fois, on ira au cinéma.
Tous les matins, l'évangile du jour est commenté par un prêtre de la région.
L'évangile. Un rendez-vous pour se nourrir et se ressourcer à 6h50, 7h50 et 8h50. Madame